Bonjour à tous. Vous avez les salutations de Nicolas qui est avec notre petite Joy. Des fois, il y a des drôles de semaines, et puis cette semaine, c'en était une pour moi. Et puis après, on se retrouve le dimanche dans la présence de Dieu et on écoute un message ou on prêche. Qu'est-ce que Dieu va nous dire aujourd'hui? L'autre jour, on se baladait au bord du lac avec Nicolas, les enfants, plusieurs familles de l'église. Et puis à un certain moment, on a croisé un ami d'enfance avec son père. Et il a voulu savoir ce qu'on faisait dans la vie, le papa. Alors on lui a dit qu'on était pasteur. Et là, il a eu une réaction intéressante, une réaction auquel je ne m'attendais pas. Il a dit, pasteur, mais alors, vous travaillez dans quel champ de mine? Alors, c'était la première fois que j'entendais l'église comparée à un champ de mine. Est-ce que l'église, c'est un champ de mine ou c'est un lieu de bénédiction? Alors, comme toute communauté qui rassemble des personnes, une famille, un club de sport, un cercle d'amis, je crois que comme toute communauté, l'Église, elle est appelée à être en bénédiction pour ceux qui en font partie. En fait, on pourrait même dire que ça fait partie de son ADN. Ça fait partie de l'ADN de ce que c'est une communauté. On est fait pour vivre ensemble, parce que c'est une bénédiction pour nous d'être en communauté. Et puis on peut dire même plus que cela. L'Église, elle est non seulement appelée à être un lieu de bénédiction pour ceux qui en font partie, mais elle est appelée à être en bénédiction pour ceux qui n'en font pas partie. C'est la mission que Jésus donne à ses disciples. Et cette mission, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, si on est un petit peu réaliste, il y a quelque chose de vrai dans l'image du champ de mine. Et pour qu'une communauté puisse être en bénédiction à l'intérieur et à l'extérieur de ses murs, ben, il y a régulièrement un travail de déminage à opérer. Alors aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à la responsabilité des leaders de l'Église à faire ce travail de déminage. C'est sur ça que le passage que nous allons lire s'intéresse. Mais vous verrez que tout le monde est concerné. Alors, je lis le texte de ce jour. J'ai oublié de le mettre sur le slide, alors vous allez juste pouvoir l'écouter. Il s'agit du passage qui se trouve dans Actes, au chapitre 6, les versets 1 à 7. Actes 6, versets 1 à 7. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. » Et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Paraménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres, et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait, beaucoup, à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Alors, j'en arrive à la première partie de mon message, le rôle du leadership. Et deux chapitres avant, dans Actes 4, on a lu que tous les croyants étaient un cœur et une âme. Il n'y avait personne dans le besoin. Et dans le chapitre 6, nous voyons des problèmes dans ces deux domaines. Il y a des discordes et il y a des gens nécessiteux. Des veuves sont négligées au profit d'autres veuves. Et du coup, il y a deux groupes qui s'affrontent, le groupe des hellénistes et le groupe des hébreux. Il n'y a pas d'unité. Alors aujourd'hui, j'aimerais développer quelques principes à partir de la manière dont la première église a géré ce problème des veuves. Et comme vous pourrez le voir, même si le texte qui nous intéresse parle beaucoup de l'appel et du rôle du leadership, tous dans l'église sont concernés. Alors qu'est-ce que c'est ces principes ? Alors, le premier principe, c'est qu'il y a des responsables. Et ces responsables, ils font preuve de leadership dans la manière de gérer la crise, tout en laissant une contribution importante à la congrégation. Le leadership a toute sa place dans le fonctionnement de l'Église. C'est lui qui indique la direction à prendre. Mais la communauté a également toute sa place dans le fonctionnement de l'Église. C'est elle qui, invitée par les apôtres, discerne les personnes qui vont pouvoir s'occuper des veuves. Chacun est à sa place et chacun joue son rôle. Et ça, c'est le premier principe important. Dans l'Église, il n'y a pas de pouvoir, de contre-pouvoir pour équilibrer les choses, mais il y a une communauté et un leadership qui travaillent en étroite collaboration. Le deuxième principe, les apôtres sont attentifs et réagissent quand il y a un problème. Et je crois qu'en tant que croyant, mais surtout aussi en tant que responsable, on a cette responsabilité. On a besoin d'être attentif à ce qui menace notre unité et traiter les problèmes de façon décisive lorsqu'ils interviennent. Il ne faut pas se leurrer dans tout groupement humain, malgré ce magnifique ADN de la communauté qui est censée être un lieu de bénédiction. Dans tout groupement humain, les problèmes nous rattrapent vite. Alors si je prends l'image d'une autre communauté, par exemple ma propre famille à moi, une petite communauté, ben, c'est un immense lieu de bénédiction pour moi. Il y a beaucoup d'amour et de complicité entre nous. Mais pourtant, je ne suis pas sûre que je peux vraiment me souvenir. Maintenant, je ne pourrais pas vous citer un jour qui a été parfaitement idéal ces derniers temps. Un jour où on n'a pas dû faire un petit ou un gros travail de déminage dans notre famille. Et dans l'Église, qui est aussi une communauté, les problèmes sont vite là aussi. Alors, premier principe, il y a des responsables. Deuxième principe, ces responsables sont attentifs et réagissent quand ils voient un problème qui surgit. Et troisième principe, et c'est sur celui-ci que je vais m'attarder particulièrement aujourd'hui. Les apôtres savent exactement ce qui fait partie de leur responsabilité et ce qui n'en fait pas partie. Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et un peu plus loin, il ne serait pas bon que nous délaissions la prière et la parole de Dieu. Alors, cette parole, elle ne veut pas dire, cette parole des apôtres, elle ne veut pas dire que la prière et l'étude de la parole sont plus importants que la distribution de nourriture. Dans la Bible, il n'y a pas de distinction entre spirituel et matériel. Et les apôtres ne se considèrent pas comme une élite spirituelle. C'est très important de le comprendre avant d'aller dans la suite. Ce que les apôtres disent, c'est qu'ils ont reçu un appel spécifique de la part de Dieu et que les tâches qu'ils font doivent être en rapport avec cet appel. Les apôtres ne sont donc pas en dehors de la réalité en disant que leur priorité, la priorité de leur appel, c'est l'enseignement et l'étude de la parole et la prière. Ils ne sont pas à côté de la plaque. En fait, on pourrait même dire qu'ils sont au cœur de la réalité, parce qu'ils savent précisément quel est leur appel. Pour parler un peu plus de cet appel des apôtres, des responsables de la première église, j'aimerais parler encore une fois de ce qui différencie l'église d'une autre communauté. On l'a vu dans l'introduction, l'église n'est pas seulement appelée à être un lieu de bénédiction pour ceux qui en font partie, mais pour ceux qui l'entourent. Alors comment est-ce que l'église devient cette source de bénédiction? Elle devient cette source de bénédiction quand elle transmet la vie de résurrection qu'elle reçoit du Père. Alors comment est-ce qu'on reçoit cette vie de résurrection? Alors bien sûr, on le reçoit par le salut, la vie de Christ qui s'est donnée pour nous. Et puis au quotidien, on le reçoit dans une relation d'intimité avec Dieu. Et cela, cette relation d'intimité, elle se fait notamment lorsqu'on se nourrit de la présence de Dieu, dans la prière et la méditation de sa parole. Les apôtres, ils savent que leur appel en tant que leader, c'est de mettre Dieu à la base de tout dans la communauté, pour que sa vie à lui puisse s'écouler, ou écouler au milieu d'eux. Ils savent que s'ils veulent bien diriger l'Église, c'est ça qu'ils ont besoin de faire. Dieu est la source de tout ce qui est porteur de vie dans l'Église. Alors, pour que les leaders conduisent bien l'Église, ils doivent être en lien direct avec lui. Mais alors, est-ce que c'est seulement les leaders qui sont appelés à cultiver cette présence de Dieu par une vie de prière et de méditation de la Bible? Alors, on sait bien que non. La vie chrétienne, c'est une course. Là, on voit Pierre et Jean qui courent au tombeau. Et je crois qu'ils ne se sont plus arrêtés de courir après la résurrection. La vie chrétienne, c'est une course. C'est une course à la suite du ressuscité. Et pour mener à bien cette course, nous avons tous un profond besoin de nous nourrir de sa présence. Le rôle des leaders, ou l'appel des leaders, c'est d'entraîner les personnes de leur communauté dans cette course. S'ils se nourrissent de la présence de Dieu, de sa pensée dans leur vie, et que cela les réforme toujours plus à l'image de Christ ressuscité, alors ils entraîneront l'Église dans la bonne direction. Alors maintenant, je vais développer par quelques mots ce que la prière et l'étude de la parole de Dieu amènent. C'est bien sûr pas exhaustif, mais c'est quelques mots. La première chose que j'aimerais dire, j'aimerais parler de la prière. La prière nous transforme, nous guide, nous place devant Dieu. La prière qui transforme, le premier point. C'est dans la prière que nous recevons la vie de Dieu dans nos veines. La présence renouvelée de son esprit en nous. Il y a quelque chose qu'on a souvent entendu par des personnes qui pratiquent l'accompagnement pastoral. Tant qu'on n'a pas prié, il ne se passe rien. Et pour l'appliquer au Notre Père, voilà ce que ça donne. C'est dans la prière que nous sommes transformés. C'est dans la prière que notre désir devient que son règne à lui vienne sur cette terre. C'est dans la prière que notre désir devient que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans la prière que nous pardonnons, parce que nous nous savons pardonner. C'est dans la prière que nous apprenons à lui faire confiance pour tous nos besoins. Et c'est dans la prière que nous nous en remettons à lui pour toutes les difficultés et les coups durs traversés. Alors c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, il arrive parfois qu'il y a des situations qui me mettent à terre. Puis je suis là, je suis en train de passer l'aspirateur, c'est une activité que j'affectionne particulièrement. Puis je me lamente avec une partie de ma tête, je m'énerve avec une autre, je désespère avec une troisième. Je suis là en train de passer mon aspirateur. Puis je m'enfonce petit à petit dans une spirale où la situation qui m'a mis à terre commence à prendre le dessus sur moi, à contrôler ma vie, mes pensées. Et tout d'un coup, je réagis à cet état de torpeur, cet état où je me laissais petit à petit aspirer par la situation. Et je décide de prier. Je décide de prier par rapport à la situation. Je la dépose. Et je dis à Dieu que je ne veux plus me laisser accabler par son poids et que je m'en remets à lui pour cette situation. Et je vous assure qu'il y a quelque chose qui change. Des fois, les changements, il est immédiat. D'autres fois, il est graduel, ça prend du temps. Mais tout d'un coup, je réalise que le poids de la situation, il s'en est allé. La situation ne l'a peut-être pas changé, mais le poids, il n'est plus là. Et je sens et je sais, je suis convaincue à nouveau de pouvoir faire complètement confiance que Dieu est aux commandes dans notre monde et dans ma vie. C'est dans la prière qu'on renouvelle une relation de confiance à notre Dieu et qu'on reçoit la foi dont on a besoin. C'est par la prière que je prends autorité, comme on l'a vu la dernière fois que je parlais ici devant. C'est par la foi que je prends autorité contre tout ce qui essaye de vouloir piquer ma liberté, ma joie, mon espérance, ma foi. La foi, l'espérance, l'amour dont parlait Lynn pendant le moment de louange. C'est par la prière que des miracles et des guérisons s'opèrent. Et c'est dans la prière que nous recevons la joie d'être enfants du Père et l'espérance profonde que nos vies ont une destinée et que cette destinée, elle commence dès aujourd'hui. La prière transforme. La prière nous guide aussi, c'est le deuxième point. Le vent du Saint-Esprit souffle selon sa volonté. Alors le travail des responsables de l'Église, mais aussi le travail de chacun, c'est de placer les voiles de nos bateaux, les petits bateaux de nos vies, les bateaux un peu plus importants de nos communautés, placer les voiles de ces bateaux dans la bonne direction pour attraper le vent de l'Esprit. Et à nouveau, c'est dans une vie de prière que nous plaçons nos voiles dans la bonne direction. Finalement, et c'est le troisième point, la prière nous met en face de celui à qui nous devons rendre des comptes. En tant que fils et filles du Dieu vivant, nous sommes avant tout responsables de ce que nous faisons de nos vies devant lui. Et en tant que responsables d'Église, nous sommes premièrement redevables à Dieu de la manière dont nous gérons nos responsabilités et seulement dans un deuxième temps devant l'Assemblée Générale. La parole. La parole nous réforme, la parole élargit. Nous avons vu que la prière transforme, la parole, elle réforme. C'est par la méditation et l'étude de la parole de Dieu que nos théologies de Dieu sont sans cesse affinées. On peut facilement être tenté de faire dire à Dieu nos meilleures manières de concevoir le bien, le mal, la foi, la manière de la vivre et tout plein d'autres sujets. Mais quand on se plonge dans la Bible, et quand on lui accorde l'autorité d'un livre inspiré par le Dieu de l'univers, alors on est vite décoiffé par ce qu'on y lit. La parole de Dieu nous indique le chemin du salut, de la liberté, de la paix, de la joie. Mais pas selon nos pensées à nous, mais selon sa pensée. Chers amis, ayons l'humilité de lire la Bible en nous laissant travailler en profondeur. Et parfois même heurté par ce texte. N'ayons pas peur de poser des questions difficiles, mais en même temps, osons ce pari fou que Dieu a inspiré toutes les lignes qui en font partie. En 2006, quand Nicolas a commencé à lire la Bible avec ce regard-là, il dit que c'est comme si la Bible lui avait explosé à la figure. Et il a rencontré Dieu. Lisons la Bible avec humilité, prêts à nous remettre en question, prêts aussi à rencontrer Dieu et sa pensée qui nous dépasse très largement, mais dans laquelle se trouve tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Finalement, la Bible, elle élargit. Dans la Bible, on redécouvre la mission de l'Église. Mais si les responsables d'une Église négligent la parole, ils vont avoir tendance à se focaliser sur les besoins internes de leur communauté et sur les structures de l'organisation de l'Église. Ils vont avoir tendance à se focaliser là-dessus plutôt que sur la mission de bénédiction à laquelle l'Église est appelée. Dans Actes 6, on remonte au 1er siècle, à l'aube de l'Église, et on y découvre une communauté qui demande à ses responsables de s'occuper de leurs besoins. Et la tentation est là, de demander aux responsables de s'occuper des besoins des personnes de la communauté. La tentation est là de leur demander ça, plutôt que de leur demander d'entraîner la communauté à la suite du Christ, dans sa mission de bénédiction pour le monde. La tentation, elle est là depuis le début de l'Église, parce que les besoins, ils sont réellement là. Ce n'est pas une invention. Les veuves de ce premier siècle avaient des besoins réels, qu'il y ait justice dans la manière dont on s'occupait d'elles. Alors oui, il y a des besoins, et oui, il faut y répondre. Ce n'est par contre pas l'appel des responsables de le faire, ou c'est en tout cas pas leur appel principal. Leur appel à eux, pour utiliser trois termes qu'on trouve dans le Nouveau Testament les concernant, c'est de conduire, de guider, de diriger la communauté, nourrie par la relation d'intimité qu'ils entretiennent avec le Père Céleste. S'ils n'ont pas cette relation, alors il vaut mieux pas qu'ils dirigent. De génération en génération, l'appel des leaders est d'entraîner le reste de la communauté dans la course de la foi à la suite du Christ. Les besoins internes de la communauté sont bien là et il faut en faire quelque chose. Mais si on pense que c'est l'appel premier des responsables d'Église de s'en occuper, on risque fort de passer à côté de la vocation de l'Église. Et par la même occasion, on risque fort de devenir un groupe qui se sente sur lui-même et dont le rassemblement fait de moins en moins sens. Mais alors, je renouvelle la question, qui c'est qui prend en charge les besoins? Et là, j'en arrive à ma deuxième et dernière partie. Des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse et dont on rend un bon témoignage. Après que les apôtres ont affirmé quel était leur appel à eux, ils font une proposition qui plaît à toute l'Église. Ils proposent que l'Église, la congrégation elle-même, cherche des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse dont on rend un bon témoignage. Ce sont ces hommes-là qui s'occuperont des besoins bien réels des veuves. Alors, on voit que les responsables, ils ont donné la direction, mais ensuite, c'est la communauté dans son ensemble qui entre en jeu pour discerner les bonnes personnes. Pas des personnes parfaites, ça n'existe pas, mais des personnes qui se laissent remplir par Dieu. Et d'entrée, on sent bien que les personnes recherchées, c'est des personnes, elles aussi, nourries par la présence de Dieu, par la prière et la méditation de sa parole. Et dimanche prochain, on entendra un prêche sur le discours d'Étienne, qui est une de ces sept personnes. Et si Étienne n'était pas nourri par la parole de Dieu, c'est impressionnant. Il avait une connaissance de la Bible qui nourrissait sa pensée, qui était là. Alors, les qualifications qui sont recherchées pour ces personnes-là, c'est qu'elles soient remplies d'Esprit Saint. Ces personnes qui sont choisies, en fait, on peut dire que c'est des personnes, probablement, qui, entraînées par la prière et l'enseignement des apôtres, elles se sont mises en marche sur le chemin d'une relation intime avec Dieu, dans cette course à la suite du ressuscité. Et parce que ces personnes sont remplies d'Esprit Saint, de la présence de Dieu en eux, alors elles sont capables de s'occuper avec sagesse et discernement des veuves. Et l'unité dans cette communauté est préservée. Alors j'aimerais conclure. Et j'aimerais conclure avec le verset qui termine notre passage, le verset 7 d'acte 6. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Hajit Fernando, un théologien sri-lankais, a écrit un commentaire intéressant sur les actes. Alors il mâche pas ses mots, je vous préviens d'entrer. Il dit ceci. Une façon sûre de vérifier si un processus de pourriture a commencé dans une église est de voir quel sujet prédomine dans les discussions lorsque les leaders se rencontrent. Si l'entretien des structures et les besoins ont dépassé la mission comme sujet principal, alors, dit-il, nous savons que la pourriture s'est installée. Fin de la citation. C'est vrai qu'il ne mâche pas ses mots, et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose à en retenir. Dans cette période dans laquelle nous nous trouvons, après la résurrection, dans cette période où Christ n'est pas encore revenu, nous sommes régulièrement appelés à faire un travail de déminage. Nous sommes régulièrement appelés à lutter contre la pourriture. Alors soyons une communauté qui lève des leaders qui ont la parole et la prière au plus profond de leur cœur. Et qui du coup conduisent notre communauté dans la mission que Christ lui a confiée. Soyons une communauté où les leaders entraînent le reste de la communauté dans cette course de la vie chrétienne. Et soyons une communauté avec des leaders qui lèvent d'autres avec leurs dons spécifiques pour participer à la vocation de l'Église, qui est une vocation d'être en bénédiction à l'intérieur de ses murs et à l'extérieur.